bombardement du consulat iranien le 1er avril dernier. À l'autre bout de l'échiquier politique, le président des Républicains, Éric Ciotti, affirme que la France doit être aux côtés d'Israël qui lutte pour sa survie et la survie de la seule démocratie du Proche-Orient. Fin de citation. La météo clémente et même estivale en Ukraine donne l'avantage à l'armée russe, dont les Russes progressent plus vite sans la neige et la boue. La Russie progresse donc sur le front où la situation s'est considérablement dégradée selon le commandant en chef de l'armée ukrainienne, communiqué datant de ce matin. Un mot de météo pour refermer ce journal avec le retour cet après-midi de nuages de la Bretagne aux Hauts-de-France. Des ondées sont même attendues ce soir sur la Manche. Sur le reste du pays, eh bien le ciel se voilera peu à peu mais restera globalement ensoleillé. Comptez 13 à 15 degrés le long de la Manche, 16 à 22 degrés ailleurs. C'est la fin de ce journal préparé ce midi avec Carline Desrosiers. Midi 45, bel après-midi sur France Culture avec Marc Weisman, Signe des temps.
Signe des temps. Marc Weisman.
Bonjour à tous. Le hasard de la distribution faisant quelquefois bien les choses, une semaine après le passage à tabac de Samara à Montpellier, après la mort de Shamseddine tabassé à la sortie de son collège par 5 personnes, dont 4 mineurs, pour avoir parlé à la sœur de l'un d'entre eux, et après fin mars le départ anticipé à la retraite du proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris, après qu'il ait demandé à une élève d'enlever son voile, voici que sort le 17 avril prochain, mercredi prochain, le film Amal, un esprit libre de Jawad Ralib avec Lubna Azapal dans le rôle principal. C'est un film qui met en scène une professeure et ses élèves aux prises avec des manipulations islamistes dans leur classe et qui parle de harcèlement, qui parle de réseaux sociaux et donc qui parle de manipulation idéologique. Et c'est l'occasion de faire le point à la fois sur ces affaires et sur le film qu'il faut voir, qui est exceptionnel, qui parce qu'il ne serait-ce que parce qu'il aborde la question très frontalement et très franchement. Jawad Ralib, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste, vous êtes belgeo-marocain, vous êtes né au Maroc et vous êtes de citoyenneté belge, c'est ça ?
Oui, exactement.
Vous avez été journaliste avant de commencer votre carrière dans le cinéma. Vous avez fait beaucoup de documentaires, dont The Pink Revolution en 2020 et auparavant Au temps où les Arabes dansaient, When Arabs Danced, qu'on peut voir en ce moment sur...
Amazon,
voilà,
Apple TV,
voilà, il y a
toutes les plateformes.
Et vous avez réalisé aussi quelques fictions comme Cette rue de la folie, Insoumise, Boomerang, et donc cette fois-ci Amal, un esprit libre. Lubna Azapal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes belge.
Ouais.
Ce que j'ignorais d'ailleurs, vous êtes née à Bruxelles.
Je suis désolée.
D'un père d'origine marocaine et d'une mère d'origine espagnole, vous avez fait un passage complexe au Conservatoire Royal de Bruxelles avant de commencer une carrière au théâtre en Belgique et puis finalement au cinéma où vous avez été encouragé notamment par André Téchiné, je crois qu'il a eu un rôle très important dans votre
une forte influence.
Ouais. Vous avez joué dans Le Bleu du Caftan, notamment la réalisatrice Mariam Touzani, qui vous a valu en 2022 votre troisième Magritte, qui est l'équivalent belge des Césars, et avant cela pour la France de Rachid Ami, Tony Gatliff Exil. Vous avez joué tourné avec Ridley Scott, vous avez tourné Paradise Now du cinéaste arabe-israélien Annie Abou Assad. Vous avez tourné aussi surtout avec Denis Villeneuve dans Incendie, le film adapté en 2011 de la pièce de Wajdi Mouhammad. Vous incarniez le personnage de Nawal Marwan qui vous a valu, je crois, le premier prix Magritte, entre autres prix. Voilà, alors, Amal, un esprit libre. Je pense qu'on va tout de suite commencer par écouter, pour se mettre dans le bain, un extrait deux extraits que j'ai mis côte à côte pour caser la situation, pour placer un peu la situation du film.
Bon. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé ?
Ben, c'est elle.
Quoi ? C'est elle ?
Non, on l'a rien fait, hein, c'est elle.
C'est n'importe quoi. Toi et ta bande, vous faites que parler sur moi. Elle m'a poussé et lui m'a craché dessus.
Rachid ?
C'est pas vrai, madame, c'est une grosse mytho, hein. Lui a jamais craché dessus.
Moi, c'est vrai, on a parlé sur elle. Mais déjà, c'est juste parce que moi, je comprends pas pourquoi du jour au lendemain, elle change de style. En plus, elle a fait les tatouages. Et madame, chez nous, les tatouages, c'est pas autorisé. C'est haram.
Les trucs de Monia, les trucs de lesbienne, oh, ça, je peux les mêler.
Ça, j'ai un problème.
Elle est là, madame.
Voilà, alors ça met le point de départ du film, l'histoire de Mounia qui se fait harceler en classe et Amal, la professeure de la classe, va être aux prises avec un groupe d'élèves d'abord et puis ensuite, en même temps, un professeur d'éducation religieuse. On va en parler d'ailleurs parce que la situation en Belgique est un peu différente de celle de la situation française sur ce point, qui manipule en fait les enfants. Alors d'abord, avant d'entrer dans le film, Yanis Roder, que j'ai oublié de complètement de présenter, je crois bien.
Bonjour Marc, c'est pas grave.
Yanis Roder, donc, vous avez vu le film hier.
Oui.
Et est-ce que ça vous a parlé?
Ah oui, bien sûr, ça m'a parlé. D'abord, c'est un film très fort.
Vous êtes enseignant.
Oui, je suis enseignant, j'enseigne depuis 25 ans en Seine-Saint-Denis. D'abord, c'est un film très fort. Et qui bien sûr bouscule énormément, et qui renvoie le professeur que je suis, alors non pas à des cas identiques parce que je n'ai pas connu ce paroxysme dans la violence et je vais pas dévoiler le film hein, évidemment et les événements tels qu'ils s'enchaînent dans le film, mais par touche régulière on retrouve dans notre quotidien, on peut retrouver dans notre quotidien d'enseignant ce que l'on voit dans ce film. Donc c'est évidemment un film qui me parle beaucoup, qui renvoie à des ambiances aussi, notamment dans la classe quand il est parfois très difficile d'échanger sur certains sujets, tant la vision de certains élèves est de type absolutiste, en réalité, dès qu'il est question de croyance, dès qu'il est question de religion, et où on constate très vite que croyance et identité, pour certains élèves, sont intimement mêlées.
Alors, Jawad Ralim, comment vous est venue l'idée du film ? Je parlais de Samara tout à l'heure à Montpellier la semaine dernière. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est pratiquement exactement les insultes qui lui ont été lancées, si on en croit sa mère et les élèves. Dans votre film, il y a une espèce de prescience d'un certain nombre de choses qui sont arrivées depuis, parce que je crois que vous avez commencé à travailler sur ce film il y a 6 ou 7 ans, d'ailleurs, tous les deux, il me semble. C'est Lubna Azabal, vous avez participé à l'écriture du film. Comment est-ce que l'idée du film vous est venue et comment est-ce que vous avez réussi à capter cette atmosphère aussi justement?
Juste pour revenir sur cette question de prof, je retiens un peu le témoignage, enfin, un des nombreux témoignages de profs, celui d'un prof l'autre soir, enfin lors de la projection à Bastille Convention, c'est ça. Il m'a posé la question, il m'a dit comment vous avez fait pour mettre un micro et une caméra dans ma classe. Et puis il s'est fondu en pleurs.
Ah oui, carrément.
Carrément, complètement. Et d'ailleurs, il n'a pas hésité à publier, etc., ses impressions. Donc en fait, Tout d'abord, c'est important de le dire, c'est un film cinéma, c'est artistiquement. J'ai beaucoup travaillé sur cette tension narrative. Il fallait absolument, par rapport à ce sujet, d'être dans cette tension narrative, dans ce on le qualifie de thriller, pour justement ne pas lâcher le spectateur du début jusqu'au dénouement. Et donc, ça, c'est important de le souligner parce qu'on n'est pas dans un documentaire. C'est une fiction, mais qui est proche de la réalité, enfin, qui relate la réalité. Donc, à partir de là, en 2018, j'ai fait un long métrage documentaire qui s'appelle « Autant les Arabes danser ». Et donc, suite à ça, il y a eu des rencontres avec pas mal d'élèves, de profs, de directeurs, directrices d'école. Et d'ailleurs, Lubna a participé à une des séances scolaires. On a fait beaucoup de séances scolaires, pratiquement sur une année.
Et donc, sur Quand les Arabes dansaient ?
Oui, Autant les Arabes dansaient. Et donc, c'était là, en fait, où... c'est-à-dire, cette situation a été beaucoup plus claire pour moi, la situation de l'école. C'est-à-dire que l'école, l'institution, a perdu tout le respect qu'on lui doit et que nous avions pour cette institution.
Ce que vous dites, c'est qu'à certaines projections de au temps où les Arabes dansaient, il y avait des réactions
complètement. Et j'insiste là-dessus, en fait, c'est-à-dire une fois que les lumières s'éteignaient, bon, c'est un docu qui est proche de la fiction à ce moment-là, où j'ai pu suivre des artistes en création, mais qui se posent toujours des artistes arabo-musulmans. Mm-hmm. Et l'idée, c'était de montrer la richesse, justement, de cette culture arabo-musulmane à travers, bien sûr, les films, la littérature égyptienne, etc. Et donc, ces artistes se posaient toujours la question jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut dire, ne pas dire. Et d'ailleurs, je peux citer Iyam Abbas, qui est dans le documentaire, où elle a adapté donc, un livre de Rachid Benzine, que j'apprécie énormément. Et donc, à partir de là, donc, on a démarré l'écriture. Et Lubna j'ai même pas pris le temps d'y penser. Donc, par rapport à la production, etc., c'était Lubna dès le début. Parce que ça correspondait justement à... C'est-à-dire, moi, en écrivant, en fait... J'avais Lubna dans ma tête. Mmh, mmh. Et donc, quand je lui ai proposé, bien sûr, elle n'a pas hésité. Et puis surtout, c'est-à-dire Lubna, elle est vraiment ma complice dans l'écriture. C'est-à-dire, c'est la première fois, j'ai ouvert, en fait, cette partie-là. Et Lubna s'est emparée, en fait, de toute sa partie. C'est-à-dire tous ses dialogues. En restant, bien sûr, dans le contexte, dans le propos. Et donc, elle a mis ça pour qu'elle puisse... vivre ce personnage, parce que elle n'est pas là à lever des drapeaux ou quoi que ce soit. C'est une actrice, donc elle interprète donc un rôle, et donc il fallait aussi qu'elle rencontre, qu'elle plonge aussi dans l'univers des profs, qu'elle rencontre des profs, parce qu'elle se posait, d'ailleurs elle peut le dire, elle se posait des questions par rapport à cette réalité. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est ça? Parce que justement, c'est un sujet très très sensible, très délicat. On ne peut pas se louper. Et donc, on ne peut même pas laisser de la place au moindre doute. Mmh. Et donc, elle se posait des questions légitimes. Et là, ses rencontres avec les profs ont confirmé, en tout cas, ce que moi j'avais déjà proposé, ce que j'avais déjà écrit.
Lubna, vous ne connaissez pas cette réalité de ce problème dans les écoles
belges. Mais disons que, vu mon vieil âge, ça fait longtemps que je ne vais plus à l'école.
Oui.
Moi, j'ai le souvenir de l'école de mon enfance et qui ne correspond absolument pas à la réalité d'aujourd'hui. Puis moi, j'étais dans une école catho.
Oui, vous étiez dans une école catholique.
Ouais, c'est ça. Je faisais le Notre Père tout le matin. Ouais. Et j'avais mon petit uniforme. Mais c'est vrai qu'il y avait... en tout cas, de ce dont je m'en rappelle, mais c'était comme ça que ça se passait. Il y avait un respect infini envers le corps professoral. Il y avait un travail entre les parents et les profs. C'est-à-dire que... des échanges étaient relativement hebdomadaires et il y avait un respect mutuel qui s'exerçait. Le prof se retrouvait pas seul dans une situation compliquée. Il suffisait qu'il en parle aux parents ou au directeur ou à la directrice. Et généralement, ça s'arrangeait et c'était l'élève, en fait. Si la faute était due à l'élève, c'était l'élève qui était puni. C'est pas le professeur qui se retrouve au placard. Et là, effectivement, je sais pas ce qui s'est passé en trois décennies, mais j'ai l'impression que les enseignants aujourd'hui, en tout cas la plupart d'entre eux, parce que c'est pas un film qui veut généraliser toutes les écoles, hein, je sais pas combien il y a d'écoles en Belgique, je sais qu'en France il y a, je sais pas, plus de 10 000 lycées, on n'est pas en train de pointer du doigt 10 000 lycées, mais enfin ces problèmes-là existent concrètement, et là on est face à des profs qui sont lâchés, qui sont maltraités, mal payés, qui se font insulter, et qui doivent fermer leur gueule. face à des faits de société qui sont de plus en plus ancrés dans notre quotidien, dans nos quotidiens, et c'est pas qu'à l'école, c'est dans les rues, c'est, on parlait de la petite Samara, mais aussi le petit Zacharia qui a été poignardé, enfin je veux dire, on parle de crime d'horreur, j'ai envie de dire, enfin voilà, au nom de nouveau d'une religion, d'une culture, d'un repli communautariste, et il me semblait, oui, effectivement, je sais même plus quelle était la question de départ, mais voilà, il me semble effectivement
si vous connaissiez pas, le milieu.
Non, je connaissais pas. Et notamment, par exemple, moi, j'étais une des premières choquées quand j'ai appris qu'il y avait des cours de religion dans les écoles.
Oui. Alors,
je savais pas.
Voilà, c'est un des trucs qui apparaît dans le film, qui n'existe pas en France. C'est qu'en fait, non seulement il y a des cours de religion, mais en plus, les cours de religion, l'école qui les abrite n'a pas de regard dessus en Belgique, c'est-à-dire que on ne sait pas ce qui se passe dans la salle où le prof enseigne pendant les cours de religion. Je voudrais qu'on écoute un extrait d'une réunion de professeurs qui essayent de faire face au harcèlement dont est victime Monia dans le film, et c'est là où on voit à la fois le désarroi des profs les manipulations idéologiques aussi qui fleurissent sur ce désarroi.
En fait, je pense que il faut ménager la sensibilité de chacun. Respecter la croyance des autres.
Oh, ça va. Hé, tu vas arrêter ça tout de suite, toi. D'accord? Tu les as vus, là, les tags à l'extérieur? Tu les as lus, les centaines de messages de haine qu'elle reçoit?
S'il te plaît, gars.
Tu les as lus? Oui ou merde? Non, mais ça va, là. Oh.
Non, mais j'aimerais bien.
Cette gamine n'a rien fait de mal, ok? Elle est coupable de rien du tout. Et si t'es pas capable de comprendre ça, c'est que t'as un sérieux problème.
T'as mal, s'il te plaît. J'aimerais bien que tu parles un ton en dessous. Ça serait bien qu'on puisse continuer cette réunion dans la sérénité. On en a besoin pour le moment, surtout quand l'école est en crise. J'ai besoin que vous restiez solidaires. Je vous remercie. Tu avais terminé?
Écoute, je comprends à mal ton énervement. Tout ce que je voulais dire, c'est que pour la sécurité de Mounia et celle de ses proches, il vaut mieux qu'elle se tenait éloignée de l'école.
Non, moi, je crois pas que c'est la solution, hein. Parce que quoi, elle va vivre cloîtrée chez elle? Enfin, c'est exactement ce que veulent les gens qui la menacent, ça. Donc, pour l'école, ce serait un terrible échec, ça.
Sylvie, t'as pas encore réagi?
Bah, je sais pas. C'est hyper complexe, cette situation. Mais c'est vrai que la présence, pour le moment, de Monia ici à l'école, c'est dangereux. C'est dangereux pour elle. C'est dangereux pour nous, pour les élèves. On peut pas prendre le risque d'une xième agression ici, quoi.
Voilà, alors c'est Fabrizio Grangione qui joue le rôle du professeur de religion onctueux et duplice diabolique dans le film, enfin pervers en tout cas. Catherine Salé qui joue la principale, qui est excellente, je trouve, dans ce côté dialoguons, discutons. Et on voit très bien comment se noue le truc. Yanis Roder, ça vous dit quelque chose, ce genre de discussion?
Oui, malheureusement, je vais dire nécessairement. Moi c'est, oui, bien sûr, on a tous, je crois, connu ce type de discussion où on essaye, où parmi nous, il y en a qui essayent d'aplanir les choses, de mettre fin à ce qu'ils pensent être des tensions, à détourner la réalité. Parce que quand la directrice dit « l'école est en crise », l'école, elle n'est pas en crise. L'école, elle est agressée. Et donc, elle détourne le réel pour complètement noyer la chose, en réalité, par gêne, par peur. Et finalement, cela aboutit à une absence de décision ferme. En fait, il n'y a aucune fermeté là-dedans. Et moi, j'ai été frappé par ça. J'en ai connu des situations qui ressemblent à cela. Où je me souviens par exemple au début des années 2000 quand je commençais à dénoncer l'antisémitisme, où je me suis heurté à des murs, où on me disait que c'était moi qui le provoquais, ou que que ça ne pouvait pas exister, et donc on noyait le poisson, on tournait autour, et jamais on ne nommait la chose réellement. Voilà. Et je retrouve là, dans cette scène particulièrement, mais dans d'autres également, je retrouve ce type de situation. Et en fait, qui sont très anxiogènes, parce que, en tant que prof, on les a vécues, on a envie de dire, mais bougez-vous, quoi.
Oui, c'est-à-dire que l'angoisse vient du désir de calmer le jeu, en fait.
Exactement, exactement.
Complètement, oui.
C'est ça la grande perversité du truc.
Complètement. Vous avez évoqué Fabrizio Rangione et Catherine Salé, c'est-à-dire en termes justement encore une fois d'écriture et de travail justement sur la direction d'acteur. Il fallait vraiment mettre faire basculer Amal presque dans la folie, c'est-à-dire qu'elle voit des choses que les autres ne veulent pas voir, et notamment donc ce personnage de Nabil. Et donc j'ai eu la chance, bien sûr, avec Fabrizio, on suit la même formation d'acteur, enfin de direction d'acteur, lui acteur, moi en tant que réal. Et c'est-à-dire il suffit parfois juste avec des verbes, juste de lui donner des verbes pour qu'il puisse être vraiment dans ce personnage, et donc personnage calme. Qui porte un costume cravate, il y a pas de barbe, donc automatiquement c'est quelqu'un de, il peut pas, c'est pas possible que ce... et face à lui, bien il fallait justement que Amal, elle est là, elle se dit mais secouez-vous, comme disait Yanis, c'est-à-dire bougez-vous, quoi, regardez ce que moi je regarde. Et donc ça c'était important. Et puis Catherine Salé, bien sûr, dans son rôle, elle est c'est ce qu'on me dit, c'est le retour, elle est géniale. Parce que justement, elle est dans cette position-là où il y a cette question de peur qui est naturelle, mais en même temps, elle justifie ça par la peur pour les autres, et notamment pour Amal. C'est-à-dire, attention, mets de l'eau dans ton vin, etc. Oui.
Donc, j'ai peur pour toi, j'ai peur pour toi.
Mais au fond, elle a peur pour elle.
Bien sûr.
Et c'est ce que Amal lui dit. Mm-hmm. T'as peur pour ta gueule. Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà, c'est ça.
Comment vous avez... cette espèce d'isolement dans lequel s'enferme progressivement Amal, ça résonne évidemment avec ce qu'on a connu aussi. Ça résonne en particulier avec Samuel Paty. Mais vous avez commencé à travailler sur le film il y a avant, si je comprends bien. Il y a 6-7 ans.
Oui, oui, complètement.
Travailler, on n'a pas... Non, on répétait pas. On se voyait régulièrement. Autour d'un café, on en discutait. Donc je relisais les versions successives. Des scénarios. Et voilà, je donnais mon avis. On a fait des lectures, parce que bon, j'ai accepté assez rapidement de faire le film, parce que indépendamment que c'est un challenge pour une actrice d'attaquer ce genre de personnage, de femme. Enfin, c'est génial pour une actrice, mais en même temps, c'est flippant aussi, quoi. Je veux dire, pas... Le sujet est flippant.
Oui, complètement.
Et il fallait... on était constamment, par moments, à la lisière de deux choses, quoi. Donc, c'est pas un film... C'est un film qui parle de l'islam radical, mais qui n'attaque pas l'islam. Enfin, je veux dire... c'est compliqué de... Parce qu'on nous rabat sans arrêt le pas d'amalgame. Donc il fallait, là, s'il y avait bien un endroit où il ne fallait pas faire d'amalgame, c'était là.
Il y a une scène d'ailleurs avec
c'est juste, c'est-à-dire que moi je ne répète jamais en fait, c'est-à-dire les scènes. Et je n'ai pas fait ça du tout avec Loubna et pas du tout avec les autres. Je travaille en fait notamment à côté des scènes et je ne touche jamais au dialogue. Et ça, c'est primordial, parce que ça ne sert à rien. Ils sont tellement nourris, et puis j'ai en face de moi une grande actrice, donc je profite en fait de son vécu.
Vous touchez jamais au dialogue, ça veut dire quoi?
On ne va pas dans les répétitions, on ne va pas aller travailler sur les dialogues, justement pour ne pas user les acteurs, et notamment les jeunes qui
vous demander. Comment vous allez travailler avec Jalila, qui est donc la fille qui mène l'agression contre Monia, qui est jouée par...
L'agression verbale. Hein,
l'agression verbale, oui, bien sûr. Par Etel González-Lardued.
Qui est excellente.
En fait, elle est cubaine. Oui, complètement. Et donc, moi, je l'avais, quand j'avais commencé mon casting pratiquement 3 ans avant, avec énormément de jeunes, donc j'ai commencé un petit peu à travailler avec eux, par groupe, etc. Donc au départ, elle était prévue en tant qu'élève, simple élève, donc pas pour ce rôle-là. Et donc plus j'avançais dans le travail avec les élèves, plus je me disais, mais non, mais c'est elle. Et donc la production, quand je leur ai dit, bon, bah, c'est elle qui va jouer le rôle de Jalila, ils se sont arrachés les cheveux, mais ça va pas, c'est pas une... Est-ce que tu es sûr? Mais non. Et donc, elle a baigné justement dans ces recherches, etc., pour pouvoir... Et donc voilà, donc c'est un travail, en fait, c'est... Moi, j'adore ça, j'aime ça, c'est-à-dire d'abord, c'est de l'improvisation préparée, complètement.
C'est-à-dire que vous avez laissé les gamins improviser entre eux, ou comment
non,
vous avez fait?
Non, pas du tout, c'est-à-dire je leur donnais, je travaillais avec eux sur des thèmes,
ouais.
Sur scène d'ailleurs, et donc je les mettais par groupe. Et je leur lançais un thème et je disais, par exemple, vous défendez cette question-là et vous l'attaquez, et après je basculais et je regarde les échanges entre eux déjà par rapport à ça. Comme par exemple Victor Hugo, donc ça, je l'ai travaillé avec eux exactement et ils ne savaient pas que ça allait se produire sur le plateau.
Et donc, pas sur la peine de mort au début du film aussi.
Oui, exactement. Et la même chose, c'est-à-dire que je travaillais avec des acteurs individuellement et je leur demandais, je leur disais à tel moment, telle scène, etc., tu fais ça, mm-hmm. tu dis ça. Et donc, ils s'étaient préparés. Mais les autres n'étaient pas au courant. C'était justement pour filmer l'imprévisible. Et d'accord. Pour donner justement pour rester dans cette tension. Et surtout que, jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'on a commencé à montrer ce film, ça fait quand même pas mal de temps, c'est que je voulais que le spectateur, quand il commence la première image, qu'il s'accroche jusqu'à la fin. Je ne veux pas le perdre, en fait, le spectateur. Et les retours qu'on a aujourd'hui confirment justement et me confortent dans ce choix.
Yannis Roeder, les élèves sont extrêmement crédibles, non?
Enfin... Oui, tout à fait. À la fois dans leurs attitudes,
ouais.
Et dans les propos qu'ils peuvent tenir, dans la manière dont ils échangent entre eux, mais aussi, moi je l'ai noté, hein, dans le respect qu'il y a quand même pour la professeure, parce qu'ils ont un vrai respect, hein,
ouais.
pour la professeure, c'est frappant et c'est rassurant en même temps. Et donc oui, je trouve que enfin ils jouent très très bien, vraiment. On s'y croirait. D'ailleurs, je vous avoue que j'étais un peu angoissé, hein, parce que en tant que prof, je me mets à la place de la prof. Et donc c'est vrai que ces situations où on est à la limite d'être débordé, où on est à la limite de la rupture, on en a tous connu en tant que prof. Et c'est vrai que c'est difficile de les revivre, de les revoir. Et d'ailleurs, je me disais hier pourquoi je suis si mal à l'aise face à ce film, mais parce que j'ai l'impression d'y être, en fait, parce que j'ai l'impression d'avoir connu ces moments-là, aussi bien dans la classe, quand vous êtes confronté à ces éruptions subites de violence, les uns dressés contre les autres, que dans le déni de la réalité par la direction, où là aussi je me suis reconnu. Et c'est vrai que voilà, on sort de là en tant que prof, en tout cas, voilà, c'est on sort de là un peu, on va dire, mentalement fatigué, quoi. Mmh,
mmh. Oui, bien sûr, parce que de toute façon, moi, je voulais pas commencer à maquiller, à mettre du je sais pas, je connais pas les termes de maquillage, mais je voulais vraiment, voilà, mettre le spectateur devant la réalité. Ne pas commencer à tourner autour, etc. C'est bon, c'est assez. Mmh. Aujourd'hui, depuis quelques temps que je discute avec, j'échange avec Loubna, nous, on a baigné dans cette culture musulmane. On connaît justement ce que c'est que l'islam. Et donc, on en avait marre, justement, d'abord d'être mis dans le même panier par une frange politique, ou bien traité en tant que islamiste par d'autres, parce que vous voyez nos têtes automatiquement quand il y a quelqu'un qui commet un acte terroriste au nom d'Allah et en criant Allahu Akbar, je vais le prononcer vraiment en bon arabe parce que je parle très bien l'arabe et je le maîtrise, Allahu Akbar, ça, moi, j'ai honte personnellement. J'ai honte. C'est-à-dire, quand je me réveille et je vois les informations et qui tournent en boucle, j'ai honte. Et donc, à partir de là, c'est de là d'où vient justement le choix de ce sujet, de ce film, c'est de dire stop. pas en notre nom. Loubna, elle le dit si bien en anglais, moi je n'arriverai pas peut-être, mais pas en notre nom.
Tu peux le dire aussi. Hein.
Not in our name.
Not in our name.
Ah oui, ben bah voilà. Mais toi, tu le dis avec une l'accent, il est magnifique.
Mais c'est-à-dire que oui, on a l'impression qu'il y a une guerre interne au monde musulman aujourd'hui, non?
Bah, il y a beaucoup de silencieux. C'est ce qui est malheureux. Et il y a une minorité qui fait peur.
Ce n'est pas une guerre interne, parce qu'il y a beaucoup
d'armes. Oui, ce n'est pas une guerre.
Il
voilà.
y a surtout une importation qui est traversée par les réseaux sociaux, par YouTube, par des problèmes, en fait, qui sont liés à une certaine géopolitique. Hein. Ça a fait un peu démarrer à la guerre en Irak, je crois. C'est que ça a commencé à merder là-bas, ça a commencé à merder un peu partout. Même bien avant ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là,
avec l'arrivée de Khomeini, avec le retour de Khomeini.
Là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une...
que Khomeini était centrale.
Ça touche la jeune génération.
Merci la France.
Ça touche la jeune génération, essentiellement. Ça touche pas la génération de tes parents.
Oui, bien sûr.
Ça touche pas la génération de ma grande sœur qui a une soixantaine d'années. Voilà, ça touche des gamins qui sont nés ici, qui sont profondément soit belges, soit français, soit... Voilà. Et qui ne savent pas où se situe la Palestine sur une carte, qui ne savent pas lire l'arabe, qui n'ont jamais lu le Coran, parce que là, c'est... Voilà. Et qui se retrouvent embrigadés et fascinés par cette espèce de pseudo...
De
oui, bah je ne sais pas si c'est de la provocation, du mimétisme, mais qui s'enlise dans un discours dangereux auquel ils croient, parce que ce sont des mômes qui ont un cerveau malléable, à souhait, et qui se cherchent généralement. Mais c'est le principe de sectaire, en fait. C'est comment on rentre dans une secte, ou comment on vous embauche dans la secte. Mais gamins-là, et à qui, a priori, ils ne devraient pas être dans cette discussion-là, être fascinés par une décapitation. Quand on a 14 ans, c'est quand même terrible, quoi. Donc il y a un souci, c'est une importation, ce souci-là. C'est pas quelque chose, donc c'est pas une guerre, mais c'est ces phénomènes deviennent de plus en plus à répétition, voilà, et c'est ça, c'est là où ça devient dangereux, quoi.
Oui. Mais c'est juste pour rebondir, comme ça je perds pas le fil, vous le permettez. Quand on parle, en fait, moi, en termes de ça aussi, c'est important de voir le film en tant que tel, c'est-à-dire qu'en termes d'écriture et de réalisation, etc. C'est-à-dire que pour moi, tous les personnages, ils ont raison. C'est comme ça qu'on travaille. Ils ont tous raison, leur raison, et ils défendent leur raison. Quand on prend par exemple Nabil, qui dit clairement que ces gamins, ces enfants...
Nabil, c'est le manipulateur.
C'est le prof de religion.
Donc quand il dit ses enfants, quand il dit à Amal et à la directrice et aux autres profs, ces enfants, ils ont besoin de retrouver de la dignité, il a complètement raison. Parce que, parce que justement, beaucoup, ils se sentent abandonnés. Et comme ils ont des beaux parleurs comme Nabil, par exemple, et ils viennent les voir, ils leur promettent des choses, la dignité, la communauté, la Oumma, etc., etc. Ils les embarquent. Comme d'ailleurs d'autres qui arrivent en leur disant vous allez vous acheter des voitures machin etc etc ben vous allez dealer ben ils les embarquent aussi parce que justement on les a abandonnés en Belgique c'est clair on a
mais sauf que là il y a un lavage de cerveau quoi.
Mais justement bien sûr
là,
parce qu'ils sont
le business c'est
le terrain non
de côté il y a un lavage de cerveau
oui quoi. Parce que le terrain il est fertile pour ça
oui mais ça a commencé c'était la même chose en Algérie dans les années 90 oui.
C'est complètement
pas exclusivement oui.
Complètement
le
on est d'accord
c'était la même chose
oui
effectivement ce que vous disiez c'est que ça a commencé le point de départ c'est 79 quoi
c'est ça c'est le retour de Khomeini pour nous en tout cas nous on le voyait au Maroc c'était le retour de Khomeini par Air France à Téhéran et on sentait tout de suite rien que le voir comment il était habillé et puis les mollahs qui ont commencé à sortir on se disait c'était fini au Maroc politiquement on a compris en fait et c'est lui qui a lancé les premières fatwas voilà et donc voilà
alors je voudrais qu'on écoute un autre extrait du film le moment où votre personnage Loubna Azabal essaie de parler de Nabil et d'essayer d'expliquer qui est Nabil. Quoi ?
C'est quand elle pète les câbles.
Moi, je
non, pas, juste, je... avant, juste avant.
Mais est-ce que c'est possible d'éviter tous ces extraits
parce pour pas gâcher
oui,
le...
Oui,
bon, alors
plaît.
On ne passera pas. On va...
Bah, c'est du direct, donc voilà, je le dis.
Non,
s'il bah,
alors
vous plaît.
Je vais... D'accord.
Oui. Et comme ça, Loubna ne bouge
oui,
pas ses
ça
oreilles.
Oui, c'est un supplice.
Ok. Ouais, bon, d'accord. Alors, simplement, il y a eu... Je vais simplement dire un mot sur la scène, une des scènes vers la fin où le personnage de Amal essaye de convaincre la principale de la nocivité du professeur de cours de religion qui apparaît, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'extrait.
Mais ça, c'est dans le bureau de la directrice.
Dans le bureau
de... Mais justement, c'est voilà. séquence-là. Est-ce qu'on peut parler
pas.
Comme
on
ça
ne
on...
pas.
Ah, super.
On ne passera pas. Mais alors, il y a une réunion très importante avec des parents d'élèves qui disent, quand ils écoutent Amal parler, qui disent, mais ça, si vous dites ça, vous faites le jeu de l'extrême droite.
On est d'accord.
Et c'est une des choses que on va, qu'on vous, je crois qu'il y a eu une avant-première dans le film où j'ai lu ça quelque part, une avant-première du film récemment à Paris, dans laquelle quelqu'un s'est levé pour vous dire que le film faisait le jeu de l'extrême droite.
Non,
sinon,
pas du tout.
J'ai lu ça,
je sais pas où. Est-ce que vous n'avez pas peur que le film soit récupéré?
Voilà.
Et que Loubna a répondu.
Voilà, c'est ça. Et donc, Loubna Azabal sur cette question.
Écoutez, moi c'est de, vraiment, je suis persuadée que c'est de ne pas en parler qui fait le jeu de l'extrême droite. Vraiment. Il y a un moment, faut pouvoir dire les choses, mettre les mots sur les mots M-A-U-X, et avoir cette maturité-là. Je veux dire, et c'est épuisant. Épuisant de s'entendre dire à chaque fois oui qu'on fait le jeu de l'extrême droite ou alors qu'on entend l'extrême gauche c'est l'extrême gauche qui nous dit qu'on fait le jeu de l'extrême droite et puis l'extrême droite quand on n'en parle pas nous dit qu'on est des extrémistes de gauche. Enfin, bon bref, et nous on est au milieu comme des cons. Et moi je trouve ça insupportable. Et c'est peut-être aussi parce que moi je ressens, comme le disait Jawad tout à l'heure, une forme de culpabilité à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un drame commis au nom de cette religion, que de ne pas en parler, moi, ça me terrasse intérieurement, en fait. Et je ressens, je pense, comme de plus en plus d'autres citoyens de confession, de culture musulmane, on ressent le besoin d'en parler et d'élever une autre voix. Voilà, celle qu'on n'entend pas du tout et qu'on arrête de nous taxer. C'est insupportable. Moi, c'est une espèce de mauvaise foi, comme ça, qui me rend malade et con, et qui est dangereuse. Ou alors, soit on nous met une cible sur la tête, soit on nous taxe de... C'est insupportable. Et je sais pas, je voulais dire une dernière chose par rapport à ça. Je le dirai plus tard demain matin, peut-être.
Je vais juste compléter 2 secondes, c'est-à-dire qu'en tant que auteur, cinéaste, c'est-à-dire si je commence à me poser des questions quand je m'attaque à un sujet de société, parce que voilà, malheureusement, je ne fais pas du Disney, et donc je m'attaque à un sujet, je commence à me poser des questions. Comment ça va être pris, comment ça va être compris, qui va le récupérer, qui va pas le récupérer, etc. On fait rien. On fait rien. Et puis la situation est telle que il est primordial d'y aller, parce que c'est, pour moi, il y a de tout dans le cinéma. On s'amuse, on voit de tout, mais il faut proposer aussi aux gens du réel pour que les gens puissent réfléchir. Et je vous assure, que on a fait le tour avec ce film, Palm Springs, en France, l'Estonie, etc., où on a d'ailleurs eu que des prix. Du public. Hier encore, on a eu 2 prix du public encore en France. C'est les gens, en fait, à la fin, ils sortent, ils sont soulagés.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a des choses qui bougent dans le film. Je ne vais pas le dire, les gens vont le découvrir, mais il y a un côté très optimiste et très positif dans le film. On peut pas... C'est-à-dire... Voilà. Mais les gens, ils sortent, quand le film se termine, il faut un temps pour récupérer. Et à partir de là, il y a un soulagement.
Voilà. Oui, parce que les gens voient que leurs inquiétudes sont prises en charge par une œuvre.
Et ils ne sont
pas seuls.
C'était le film. Je voulais dire que on peut pas non plus sans arrêt se cacher derrière les termes pas d'amalgame ou islamophobie. Ça devient lourd. Le pas d'amalgame cessera quand on cessera le silence et qu'on arrivera à mettre des mots dessus. Voilà.
C'est le silence qui autorise l'amalgame.
C'est le silence qui autorise l'amalgame, voilà, et la bêtise autorise tout, exactement.
Oui, c'est même, l'extrême droite, elle prospère sur nos silences, je crois. Ouais. On lui offre l'exclusivité du réel. Mmh. Les gens vivent au quotidien un réel qu'il ne faudrait pas dire. Or, ils le vivent, et les seuls qui a priori, c'est comme ça qu'ils le voient certains, et c'est pour ça qu'ils se tournent vers l'extrême droite.
C'est ce qui est arrivé avec Mila, par exemple.
Exactement. Et les seuls qui, à leurs yeux, semblent dire le réel qu'ils vivent, eh bien c'est l'extrême droite, parce que nous leur laissons ce réel. Et donc, moi je salue ce film, je salue toutes les œuvres qui osent regarder en face ces questions. Parce que ce sont des questions de société, c'est pas des questions de droite, de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Ce sont des questions qui posent la question de l'avenir de notre société. Est-ce qu'on veut aller vers une, je vais le dire très franchement, vers une libanisation de la société, ou est-ce qu'on veut continuer à construire une société qu'on souhaite apaiser? Voilà, je crois qu'il faut dire le réel, et il faut pas faire ce cadeau du réel à l'extrême droite. Il faut oser dire les choses. Quant au pas d'amalgame, moi je suis frappé par une chose. C'est que ceux qui nous disent pas d'amalgame sont les premiers à en faire. C'est-à-dire que vous parlez de l'islam radical, vous parlez donc de l'islamisme. Et qu'est-ce qu'on vous reproche? Je l'ai lu dans des posts sur Internet. Qu'est-ce qu'on vous reproche? De viser l'islam. Mais vous ne visez absolument pas l'islam. Vous visez l'islamisme. Or, ceux-là même qui vous reprochent de viser l'islam disent « vous faites un amalgame ». Mais non, ce sont eux qui font l'amalgame. Mmh.
Mmh. Oui, parce que c'est important. Moi,
le film est très clair là-dessus.
Très
complètement.
Très clair.
Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'inviter les gens à bien regarder le film. D'accord, à ouvrir un petit peu les oreilles, le regard, etc. C'est-à-dire que dans ce film, que ce soit pour l'extrême droite ou tous les extrêmes ou l'extrême gauche, c'est dans ce film, en fait, nous, en tout cas, notre ambition, c'est de montrer justement cet islam silencieux qui s'oppose à cet islamisme. D'accord ? C'est-à-dire quand on a les personnages, il y a plusieurs nuances de couleurs. Il y a le gris, le noir, mais il y a aussi le blanc. Et donc, automatiquement, on a des musulmans qui sont très ouverts, c'est-à-dire qui incarnent justement cet islam dans lequel moi j'ai baigné, Loubna a baigné. C'est-à-dire d'ouverture, d'acceptation de l'autre. Et on insiste là-dessus. Et je le rappelle, retenez bien cette phrase. L'islam, c'est Din wa dunya, la vie et la religion. Rien ne m'empêche, et je le répète encore une fois, et je n'ai pas arrêté de le répéter, de boire un verre de vin, d'accord ? Et le soir, de faire ma prière en toute intimité. Je n'ai pas besoin de l'afficher. Ce qui est par contre contraire, et d'ailleurs c'est dans toutes les religions, c'est de se bourrer la gueule et de faire sa prière. Parce qu'il faut quand même qu'on sache ce qu'on raconte et ce qu'on dit.
Et encore, si quelqu'un a envie de le faire, c'est son problème, j'ai envie de
Exactement.
Te dire.
Exactement. Voilà, que chacun se mêle de ce qui le regarde.
Je me sens comme un agneau qui dit pardon au loup d'avoir été trop lent à lui offrir son cou, d'avoir pris trop de place, d'avoir trop résisté, d'avoir vu sa robe de rouge se tacher. Cette jungle me doit des mea culpa à l'appel à marcher entre Raotour et Yen. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne.
Merci à tous les trois d'avoir été là. Merci Jawad Rally, merci Loubna Azabal, merci Yanis Roder.
Ah, on a terminé. Je rappelle, c'est une fiction.
C'est une fiction, c'est Amal, un esprit libre, et ça
merci
sort
beaucoup.
Mercredi prochain, le 17 avril.
Merci.
Allez-y.
Merci beaucoup.
C'était Signe
merci.
Des Temps.
C'est pas une comédie, mais enfin,
c'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Théa Corler, avec à la technique Ludovic Auger et à la réalisation Sam Bakiast.
Merci.
Plus les fois où on m'a traité de chien. Mais c'est une chienne.